Bonjour, c'est parti pour cette nouvelle intervention sur les meilleures stratégies d'apprentissage. Donc 30 minutes pendant lesquelles nous allons explorer qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour apprendre efficacement, que vous soyez un adulte en reconversion professionnelle, que vous souhaitez relever des défis d'apprentissage, apprendre une langue, retenir des prénoms ou que vous ayez des enfants. Et que vous aimeriez accompagner pour qu'ils soient plus à l'aise, plus sereins, plus confiants dans leur scolarité et dans leurs défis d'apprentissage. Donc il s'agit d'une intervention en direct, donc sur LinkedIn. N'hésitez surtout pas à interagir avec moi, laissez vos commentaires si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Et d'ailleurs, pour démarrer, j'aimerais que vous me mettiez en commentaire, ça me permettra de voir si ça fonctionne bien. Mettez en commentaire, en fait, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette intervention aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez en retirer? Mettez cela en commentaire et je ferai mon maximum pour pouvoir répondre à vos attentes, à vos besoins à travers cette intervention. Et pour les personnes qui regardent cela en différé, eh bien, laissez aussi un commentaire. Cela me fera plaisir de pouvoir y répondre. Donc, qu'est-ce que nous allons voir durant cette intervention aujourd'hui? Nous verrons dans un premier temps qu'est-ce que nous entendons par apprendre. Qu'est-ce qu'apprendre, justement? Et ensuite, avant même de parler d'outils, de techniques, etc., eh bien, c'est important de commencer par la base. Et la base repose sur trois piliers. Un, l'intentionnalité, ensuite la présence et les émotions. Ensuite, nous parlerons de révision espacée. Nous verrons à ce moment-là qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre système éducatif, les erreurs que j'ai pu faire en tant qu'étudiant et également qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter de tomber dans ces erreurs. Ensuite, comment gérer la charge mentale, parce que la charge mentale est également un frein à l'apprentissage, pour enfin terminer sur l'entraînement cérébral. Donc je vois qu'il y a des premiers commentaires qui commencent à tomber. Donc je vois qu'il y a des personnes qui sont curieuses, qui ont envie d'apprendre et découvrir tout cela. D'autres qui sont professionnelles dans le milieu, des formatrices et qui aimeraient encore sur les stratégies d'apprentissage. Et eh bien, parfait, on va pouvoir partager tout cela aujourd'hui. Donc commençons tout d'abord par apprendre. Qu'est-ce que nous entendons par apprendre? Et l'apprentissage repose fondamentalement sur la mémoire. Et la mémoire, ce n'est pas juste retenir l'information. Ce serait finalement le cerveau, hein, comme peut-être que vous l'avez vu quelque part, le cerveau repose sur deux modes de fonctionnement, pour faire simple, un mode de fonctionnement conscient et un mode de fonctionnement inconscient. Donc le mode de fonctionnement inconscient, c'est toutes ces parties du cerveau qui va gérer notre respiration, nos fonctions vitales, etc., et percevoir plein, plein, plein d'informations qui ne seront pas traitées par le cerveau conscient. Le cerveau conscient, c'est le cerveau, c'est l'endroit où j'ai conscience des informations. Donc, quand nous parlons de mémoire, c'est important de retenir qu'il y a plein d'informations auxquelles nous allons être exposés, qui vont être là quelque part dans notre cerveau, mais qui vont rester dans le domaine inconscient. Et des informations auxquelles nous n'aurons pas accès consciemment. Donc pour pouvoir justement travailler sur la mémoire, il va être important de s'entraîner à retrouver l'accès à ces informations de manière consciente. Et c'est ça le processus de la mémoire. Ce n'est pas juste faire entrer les informations dans le cerveau, c'est surtout savoir bien les ranger, les encoder au bon endroit, de la bonne manière, pour pouvoir les réutiliser en situation. Et d'ailleurs, c'est même l'une des définitions de l'intelligence. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Eh bien, l'intelligence, c'est notre capacité à mobiliser nos ressources, comme nos connaissances, nos compétences, dans une situation. Donc, cette dimension d'apprentissage, cette dimension d'intelligence, eh bien, repose fondamentalement sur le passage à l'action, sur le fait de pouvoir réutiliser ce qui nous est à notre disposition. Et donc c'est pour cela que si vous n'êtes pas dans les bonnes prédispositions pour apprendre, vous êtes stressé, vous avez trop de charge mentale, vous êtes épuisé, pas assez de sommeil, etc. Eh bien tous ces éléments vont entraver votre capacité d'apprentissage parce que vous n'allez pas forcément bien encoder les informations, bien les ranger pour bien les retrouver. Donc voilà, j'espère que déjà cette partie-là est claire. N'hésitez toujours pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, si vous n'êtes pas d'accord aussi. Hein, j'aime bien être challengé aussi parfois. Donc, pensez à utiliser le chat pour cela. Donc, voilà ce que nous entendons par apprendre. C'est savoir encoder l'information, la ranger et l'utiliser en situation. C'est savoir aussi mobiliser ses formes d'intelligence. Et là, j'utilise volontairement le pluriel parce que dans notre philosophie chez Passion d'apprendre, on croit profondément au concept des intelligences multiples de Howard Gardner. Howard Gardner, qui était un professeur-chercheur à l'université de Harvard, qui a conceptualisé le fait que nous avons plusieurs formes d'intelligence. Alors oui, ces formes d'intelligence n'ont pas encore pu être mesurées d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue quantitatif plutôt, d'un point de vue scientifique. Néanmoins, nous, ce que nous observons à travers nos approches empiriques, notre travail sur le terrain, il s'avère que ces intelligences existent et sont de vraies ressources que nous pouvons mobiliser dans notre quotidien. Et en utilisant ce prisme de lecture de l'humain, on se rend compte que chaque personne est différente. Qu'il y aura des personnes qui seront plus logicales, mathématiques, qui auront besoin de plans, de structures, d'un tableau, de chiffres, etc. D'autres pour qui ce sont les mots qui vont être plus importants. D'autres pour qui ça va être l'aspect visuel, d'avoir un schéma, d'avoir des couleurs, etc. Ou d'autres personnes qui ont besoin plutôt de, pas forcément conceptualiser, mais de faire d'abord des choses pour ensuite en comprendre l'apprentissage. Donc on peut voir que chaque personne fonctionne différemment, même si nous avons toutes et tous toutes ces formes d'intelligence en nous, l'intelligence logicale mathématique, l'intelligence verbale linguistique, l'intelligence visio-spatiale, ou l'intelligence intrapersonnelle ou l'intelligence interpersonnelle par exemple. Eh bien, toutes ces intelligences font partie de nous, mais nous avons des forces en fait. Par exemple, pour ma part, une de mes forces, une de mes manières les plus naturelles et les plus simples d'apprendre repose sur l'intelligence kinesthésique corporelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je veux apprendre plus efficacement, ça ne va pas être avec du texte, ça ne va pas être avec des chiffres, ça va être en faisant les choses, en testant des choses. C'est pour ça que j'adore, par exemple, pour animer des webinaires comme aujourd'hui, parce que ça m'oblige à passer à l'action, à me confronter au terrain, avoir de retours de d'autres personnes, des feedbacks, et c'est comme ça que j'apprends le mieux. Alors oui, après, il n'y a pas une seule manière d'apprendre. L'idéal, c'est de combiner ces différentes formes d'intelligence et de combiner les différents modes d'apprentissage. Et en utilisant les intelligences multiples, eh bien, on comprend que nous pouvons apprendre de cette manière. Donc apprendre, c'est également comprendre comment nous fonctionnons. Qu'est-ce qui est le plus simple pour nous et le plus efficace en matière d'apprentissage? Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi? Peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Et c'est ça qui va être important également, c'est d'accepter qu'il y a certaines manières de faire qui ne me correspondent pas et que je vais devoir trouver d'autres manières de fonctionner. Et ça, c'est valable pour soi, mais c'est aussi valable pour peut-être les personnes que vous accompagnez. Je vois qu'il y a des professionnels de l'accompagnement et de la formation parmi nous aujourd'hui. C'est valable également pour vos enfants, si vous avez des enfants et qui sont différents et que peut-être ce n'est pas en répétant un texte que l'on va fonctionner, mais plutôt en marchant, en bougeant, etc. Et c'est en étant ouvert sur cette dimension-là que l'on va pouvoir tester de nouvelles manières d'apprendre et de nouvelles stratégies d'apprentissage. Un autre concept qui est important et en matière d'apprentissage, c'est que je vais vous partager des techniques, je vais vous partager des astuces. Mais s'il n'y a pas avant tout la base d'un cerveau sain et un cerveau entraîné, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, si je vous donne la technique du mind mapping, des cartes mentales, mais que derrière vous ne dormez pas suffisamment, que vous n'arrivez pas du tout à vous concentrer, que vous n'arrivez pas à rentrer dans le sujet, ça ne marchera pas en fait. Et j'ai accompagné de nombreuses personnes qui faisaient face à ce problème, à un manque de sommeil, à un manque de concentration, à un problème de concentration et pas assez d'entraînement cognitif pour que les outils et les stratégies d'apprentissage soient efficaces. Donc c'est pour ça que pour nous c'est important quand on parle d'apprentissage, ce n'est pas juste les stratégies, ce n'est pas juste les outils, c'est aussi en plus de ça des habitudes d'entraînement cérébral, des habitudes par exemple de techniques de mémorisation, des habitudes par exemple de lecture rapide, qui vont entraîner la concentration et le fait de digérer l'information, ou les habitudes également de mind mapping, de carte mentale, pour pouvoir travailler l'esprit de synthèse, libérer la charge mentale, avoir de la créativité. Donc il y a tout ça dans cette dimension d'apprentissage, ce n'est pas juste ces techniques, ce n'est pas juste le contenu, c'est également le fait d'avoir un cerveau sain et entraîné. Et une fois qu'on a ce cerveau sain et entraîné, on peut enfin utiliser les bons outils, les bonnes stratégies en fonction du contexte, en fonction de l'objectif et en fonction de ses propres modes de fonctionnement. Donc voilà ma vision liée à l'apprentissage. Donc maintenant qu'on a compris ça, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, c'est de savoir par quoi on commence en fait. Par quoi on commence avant même de parler de techniques, etc. Eh bien, je dirais, il faut commencer déjà par ces trois mots, plus un quatrième bonus. Le premier, c'est l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est quoi? C'est fait d'avoir une intention claire. Et je vais prendre un exemple très classique en matière de mémoire. Souvent, quand on parle de mémoire, on me dit, de toute façon, moi, ça ne me sert à rien qu'on me dise mon prénom, un prénom, par exemple, parce que je ne retiens jamais les prénoms. Déjà, rien qu'en se disant ça, vous envoyez un message à votre cerveau. Vous envoyez un message à votre cerveau de ça ne sert à rien de faire l'effort de retenir les prénoms, parce que de toute façon, tu ne vas jamais les retenir. Donc là, il y a une intention, peut-être inconsciente, que vous avez posée, qui est de ne retiens pas les prénoms, ça ne sert à rien, tu n'y arriveras pas. Donc rien que le fait de changer ça, de se dire, je vais essayer de retenir cinq prénoms ce soir, ou je vais essayer de mémoriser le plus de prénoms possible durant cette soirée, mais vous changez déjà la dynamique. Vous envoyez un défi à votre cerveau qui va être beaucoup plus captif, beaucoup plus attentif et va pouvoir mettre l'effort nécessaire pour pouvoir ancrer l'information. Et ça passe par l'intentionnalité. Pourquoi c'est important? Parce que le cerveau est l'organe le plus énergivore du corps. Il pèse que 2, 3 à 4% du poids du corps en moyenne, mais il va consommer jusqu'à 20% de l'énergie totale consommée par le corps. Donc comme il est très énergivore, sa fonction primaire, c'est d'économiser l'énergie. Et la meilleure manière d'économiser l'énergie, c'est d'éviter les efforts. Et c'est pour cela que pour nous, en tant qu'humains, c'est beaucoup plus simple de procrastiner. C'est beaucoup plus simple de choisir les actions qui nous demandent le moins d'efforts, de se reposer, etc. Parce que c'est ce que le cerveau va choisir en priorité, que nous le voulions ou pas. Comprenant cela, vous comprenez maintenant que c'est important de choisir intentionnellement de faire des efforts et de faire attention à comment on se parle également. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Mettez dans le chat si c'est clair pour vous l'exemple que je viens de partager avec vous sur cette notion d'intentionnalité, notamment pour retenir les prénoms. Je sais que c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes. Et ce qui est génial aussi avec cet exemple, c'est que la plupart des personnes aujourd'hui sont convaincues qu'elles n'arrivent pas à retenir les prénoms. Donc elles ne font pas l'effort, donc elles ne le font pas. Donc à partir du moment où en soirée vous dites OK, je vais retenir des prénoms, par exemple 5 ou 10 prénoms, et que vous avez une stratégie comme par exemple le fait d'associer un prénom avec quelque chose qui vous parle ou avec quelqu'un d'autre qui vous parle, de répéter durant la soirée et de découper en morceaux, de ne pas faire 10 prénoms d'un coup, mais par exemple par groupe de 5 ou par groupe de 3. Et qu'à la fin de la soirée, vous retenez les prénoms, eh bien, ça marque les gens. Ça, c'est une vraie stratégie de networking que je trouve qui fonctionne très bien. C'est de retenir les prénoms et ça surprend les gens. Et surtout, ça les valorise, ça leur donne le sentiment d'avoir été écouté, d'avoir été considéré. Donc, je dirais que s'il y a un vrai défi d'apprentissage, un entraînement cérébral que je vous encourage à faire à partir de maintenant, c'est de vous entraîner à retenir des prénoms de personnes que vous rencontrez. Et ça va vous permettre de travailler cette intentionnalité et également ces stratégies de mémorisation. Maintenant, une fois que vous avez posé cette intention claire avec cette notion d'intentionnalité, autre chose qui devient importante, c'est la notion de présence, d'être présent dans l'instant. Alors, oui, on entend parler de présence, de moment présent à travers la méditation, mais il n'y a pas que ça. Dans une dynamique d'apprentissage, Si vous n'êtes pas là, ça veut dire que votre cerveau, il est ailleurs. Le cerveau, il est forcément quelque part. Donc, soit il est là dans l'action, là où vous êtes aujourd'hui, soit il est en train de penser à autre chose. Et là, je vais prendre un autre exemple. C'est l'exemple de la lecture. Est-ce que ça vous arrive de lire un texte, de lire, et en fait de vous rendre compte que ça fait 3 fois que vous lisez la même ligne, mais que ça rentre toujours pas? Eh bien, ça fait 3 fois que je lis cette ligne, mais... Ou sinon, d'arriver à la fin de la page, je vous dis, mais ah, j'ai rien retenu. C'est pas parce que vous n'avez rien compris. C'est juste que vous n'étiez pas là et votre cerveau était ailleurs, vous n'étiez pas présent. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un vrai enjeu sur la concentration et sur la présence, notamment avec tous ces réseaux sociaux qui nous amènent à être de moins en moins concentrés. Il y a une étude même qui a montré que depuis quelques années, le niveau d'attention globale des humains est passé en dessous du seuil des 8 secondes, qui serait a priori le seuil de concentration d'un poisson rouge. Donc il y a un vrai challenge là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que nous pouvons nous entraîner à être plus concentrés, être plus présents avec des techniques de respiration, par exemple, comme la cohérence cardiaque, ou comme la respiration carrée, ou comme des techniques de méditation. Et là, ça rejoint encore une fois ce que je disais plus tôt, que l'apprentissage, ce n'est pas juste, voilà, je vais répéter mon cours, faire mes exercices, etc. C'est aussi travailler sur ses compétences cognitives comme la concentration et comme l'attention ou l'intentionnalité. Et enfin, il y a aussi cette notion de comment maintenir son niveau de concentration dans la durée, d'être dans l'ici et le maintenant, mais le plus longtemps possible. Et là, encore une fois, il y a des techniques pour cela, et une de mes techniques ou de pratiques d'entraînement cérébral préférées pour cela, c'est l'entraînement à la lecture rapide, par exemple, qui entraîne notre cerveau à rester dans un niveau de concentration élevé dans la durée. Voilà les grands principes pour un apprentissage efficace. Donc nous avons vu que avant même de parler de technique, c'est important de comprendre ce qu'est apprendre et que apprendre, c'est savoir ranger les informations et les réutiliser dans le bon contexte de manière appropriée par rapport à ses modes de fonctionnement et qui repose également sur 3 piliers: intentionnalité, présence et concentration. Et là, ce que je viens de faire, c'est une révision espacée. C'est quoi une révision espacée? C'est une révision de ce que nous avons vu, mais espacée dans le temps et de manière volontaire. Je l'ai fait au bout de 10 minutes. Et pourquoi 10 minutes? Eh bien, parce que ça reprend les éléments du chercheur Ebbinghaus qui a modélisé le concept de la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est quoi? C'est le fait que nous avons tendance à oublier l'information rapidement dans le temps. Donc vous avez cette courbe bleue qui montre à quel point le pourcentage de rétention d'information chute en fonction du temps qui passe. Mais que si vous révisez de manière stratégique dans le temps, c'est-à-dire pas du jour au lendemain, mais dilué dans le temps, par exemple au bout de 10 minutes, au bout d'une journée, au bout d'un mois, eh bien vous allez augmenter le niveau de rétention d'information dans le temps. Et l'idéal, bah pour cela, selon moi, le meilleur outil pour pouvoir pratiquer la révision espacée et éviter la courbe de l'oubli, c'est le mind mapping. Le mind mapping, pourquoi? Parce que c'est une stratégie de prise de notes, donc des cartes mentales, qui permet de structurer l'information de manière visuelle et que vous pouvez faire cela en synthèse. Donc souvent, ce que je partage dans mes formations, c'est de prendre des notes, par exemple peut-être que vous êtes en train de prendre des notes sur cette masterclass, de prendre des notes sur la masterclass, et ensuite, à la fin de la journée, de prendre vos notes et de les remettre au propre dans une mind map, dans une carte mentale. Et que le fait de faire cette carte mentale, ben, ça va être une révision à part entière, parce que vous allez devoir réfléchir à, ok, il y avait cette information, ça me rappelait ça, et de l'encoder dans votre cerveau à travers une carte. Et c'est en ça que les cartes mentales, telles les a créées Tony Buzan, eh bien, sont un outil puissant de mémorisation, d'apprentissage, parce que ça permet de réviser. Ça permet d'encoder l'information de manière visuelle, de manière structurée. Et ensuite, quand vous les révisez plus tard, vous avez fait la mind map au bout d'une journée. À la fin de la semaine, vous n'avez pas besoin de relire le cours, revoir la vidéo. Il suffit tout simplement de jeter un œil sur la mind map ça vous prend 2 minutes et vous réactivez l'information dans votre cerveau. Et c'est en ce sens que vous allez mieux mémoriser, mieux apprendre. Et bah, par exemple, si vous avez des enfants, plutôt que de faire comme moi je l'ai fait pendant mes études, à savoir apprendre à l'arrache la veille pour le lendemain et d'oublier une semaine après, eh bien, plutôt que de se faire violence de cette manière, d'avoir une approche stratégique, de poser la question, ok, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ça fait la première réactivation de la journée. Ok, est-ce que tu pourras me faire une mind map à la fin de la semaine? Deuxième réactivation à la fin de la semaine. À la fin du mois, ok, raconte-moi quelles sont les choses, montre-moi les cartes que tu as faites ce mois-ci et explique-les-moi. Troisième réactivation. Et bah, du coup, pour l'examen, juste à repasser rapidement sur les mind maps, ça réactive l'information et c'est mémorisé à long terme. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup moins énergivore et beaucoup plus efficace. Donc le mind mapping est puissant pour cela. Mais pas que. Le mind mapping également, donc les cartes mentales, ont aussi cet avantage de limiter la charge mentale. La charge mentale, c'est quoi? C'est le fait d'avoir trop d'informations. Trop d'informations tue l'information, on en a plein la tête, plein les épaules, et ça épuise, ça fatigue, et bah, on a de moins en moins d'aisance à encoder la formation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai beaucoup de charge mentale, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, j'ai beaucoup de mal à retenir ce que l'on me dit, et j'ai tendance à oublier. C'est normal, parce qu'il y en a trop dans la tête. Donc, une des techniques pour se libérer de cette charge mentale, c'est d'utiliser les cartes mentales, justement, les mind maps, parce que ça permet de synthétiser l'information. On enlève tout ce qui est superflu et on ne garde que l'essentiel. Les mots-clés, les idées clés, et bah, ça permet, en tout cas en matière d'apprentissage, d'être beaucoup plus efficient pour le cerveau et bah, d'augmenter considérablement bah, ses chances de mieux mémoriser et de mieux apprendre. Donc pour ma part, voilà un des outils que je trouve très puissant en matière d'apprentissage. Donc les cartes mentales, à la fois pour structurer l'information, mais aussi pour pouvoir libérer la charge mentale. Alors je vais faire un tour dans le chat, voir s'il y a des questions. Donc je vois qu'il y a dit, qui écrit, d'accord, sauf le point 3, la remédiation cognitive pourrait aider même les cerveaux 10 à fonctionner et être productifs. Sur une technique d'apprentissage, le renforcement positif se récompenser après un effort souhaité. Oui, ça n'empêche pas, la récompense après un effort permet de faire du positive reinforcement, comme on dit en anglais, donc du renforcement positif qui va renforcer un comportement qui est bénéfique pour le cerveau. Donc là, on est sur des stratégies, justement, stratégies pour recalibrer le cerveau sur des bonnes habitudes. Et bah ça fonctionne très bien, en effet. Ok, je ne vois pas d'autres questions, donc je continue. Donc nous avons vu que le cerveau a besoin donc de ranger les informations, de les structurer, que le mind mapping aide à ça également, et qu'on a besoin aussi d'entraîner notre cerveau, parce que ces stratégies, comme la technique de mémorisation que je vous ai partagée avec les prénoms, avec la notion d'intentionnalité, de présence et de concentration, eh bien, toutes ces techniques-là fonctionneront beaucoup, beaucoup mieux si vous déployez dans votre quotidien de l'entraînement cérébral. L'entraînement cérébral, c'est quoi? C'est d'utiliser les techniques de manière répétée dans le temps. Vous allez peut-être voir des formations, des initiations sur une journée. À une journée pour la mémoire, une journée pour la lecture rapide ou une journée pour la mémorisation. C'est des choses que j'ai faites, donc c'est bien pour apprendre les outils. Par contre, ce que j'ai pu observer, c'est que au bout d'un an, si les participants et les participantes n'ont pas continué à pratiquer régulièrement ces outils-là, ça n'aura servi à rien. Ce qui est vraiment important dans toute cette dynamique-là, c'est la création d'habitudes et d'utiliser régulièrement ces outils. Pour les techniques de mémorisation, je vous ai partagé justement cet enjeu de s'entraîner à retenir les prénoms. Mais si vous pouvez le faire régulièrement, bien vous allez entraîner votre mémoire. Vous pouvez aussi vous donner des petits défis de retenir votre liste de courses avant d'aller faire les courses, par exemple. Voilà, régulièrement utiliser votre mémoire, parce que c'est vrai que nous sommes dans une société aujourd'hui où nous avons de moins en moins besoin de retenir les informations, parce que bah, les informations, elles sont maintenant de plus en plus souvent dans le téléphone. Ce qui est génial parce que ça peut libérer la charge mentale d'une certaine manière, mais cela nous donne moins d'opportunités qu'auparavant d'entraîner notre mémoire. Et donc l'enjeu ici va être bah, comme pour le sport, parce qu'avant on n'avait pas besoin de faire de sport il y a quelques centaines d'années, parce que bah, on était tout le temps actif en tant qu'humain, de marcher, bouger, etc. Aujourd'hui, nous sommes une société sédentaire qui nous amène à faire du sport pour être en bonne santé. Eh bien, pour le cerveau, c'est la même chose. Nous sommes dans une société où on utilise différemment notre cerveau aujourd'hui avec les outils technologiques et que on doit aussi trouver de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de faire pour continuer d'entraîner notre mémoire, notre capacité à lire, notre capacité à synthétiser, pour pas que tout soit délégué aux outils technologiques comme le téléphone ou l'intelligence artificielle. Et donc tout cela passe par de l'entraînement régulier, au même titre que la course à pied que l'on fait régulièrement pour progresser. Et c'est pour cela que nous croyons profondément au concept de neurosport ou de neurosportif, c'est-à-dire de pratiquer les sports du cerveau de manière régulière. C'est pour cela qu'avec Nicolas Lisiak, mon associé, avec passiondapprendre.com, nous faisons principalement des programmes qui durent dans le temps pour accompagner sur la création d'habitudes et vraiment faire des personnes, non pas juste des personnes qui ont les techniques d'apprentissage et les stratégies d'apprentissage, mais pour que les personnes deviennent des vrais sportives ou des vrais sportifs du cerveau, que ça fait partie de leurs habitudes et de leur mode de fonctionnement. Et pour cela, bah, nous avons créé le programme neurosportif. Donc, le programme neurosportif, c'est quoi? Bah, c'est pour les personnes qui veulent entraîner leur cerveau, prendre soin de leur cerveau, développer leur performance intellectuelle, comme la concentration, la mémorisation, l'esprit de synthèse, et être plus performant et serein dans leur quotidien professionnel ou dans leur manière d'apprendre, dans leur défi d'apprentissage. C'est un programme qui repose sur ces trois piliers: mémoire, mind mapping, lecture rapide, et qui va permettre bah, de mémoriser de manière durable, efficace, de manière intentionnelle, de décupler sa vitesse de lecture, de savoir prendre des notes de manière créative avec le mind mapping, et aussi de dépasser le problème de procrastination, parce qu'on va vraiment travailler sur le cerveau, pas juste sur les techniques d'apprentissage et comment apprendre, mais comment mieux utiliser son cerveau de manière générale et bah, pouvoir mettre les bonnes pratiques en place pour vraiment passer à l'action, parce que l'apprentissage, c'est vraiment le passage à l'action qui prime. Et bah, c'est un programme qui repose sur ces trois piliers. On est sur un petit comité, hein. On n'est pas sur des grosses promos, on va accompagner 15 personnes maximum. Et cela dure 3 mois avec un rendez-vous collectif par semaine, une session de coaching individuel également, et avec une application mobile, et une application mobile également qui va vous permettre de vous entraîner 15 minutes par jour. C'est ce qui bah, vous permettra d'avoir le plus de résultats à long terme. Et pour les personnes qui décident de nous rejoindre hein, pour la prochaine promo en avril, eh bien, nous avons également 3 bonus avec un module offert sur les habitudes et l'autodiscipline. Également, l'application NeoBoost, notre application phare d'entraînement du cerveau pendant 1 an et également un coaching individuel. Donc voilà ce que nous vous proposons et c'est un programme que nous faisons depuis de nombreuses années, qui apporte des résultats vraiment surprenants et bah, qui a pu même changer la vie de certaines personnes parce que bah, on se rend compte que notre cerveau est capable de bien plus qu'on ne pourrait le croire à partir du moment où on lui offre la possibilité, l'opportunité, les outils, l'environnement pour qu'il puisse déployer son plein potentiel. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous mets le lien en commentaire si cela vous intéresse, donc pour rejoindre le programme neurosportif. Hop, je le fais maintenant. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, m'envoyer un message ou tout simplement nous envoyer un mail. Nous y répondrons avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, j'espère que cette session vous a permis de repartir avec des clés que vous êtes venu rechercher en matière d'apprentissage. Vous donner aussi l'envie de devenir une neurosportive ou un neurosportif pour pouvoir entraîner votre cerveau et déployer ces belles techniques dont nous avons besoin aujourd'hui dans ce monde qui nous challenge en fait, hein, qui nous amène à devoir apprendre de plus en plus rapidement parce que tout change rapidement aujourd'hui. On parle d'obsolescence des compétences et des connaissances aussi d'ailleurs, et que nous devons de plus en plus désapprendre l'ancien, apprendre le nouveau, faire de la place dans notre cerveau. Et tout cela demande des compétences cognitives à développer. Et c'est ce que nous vous proposons avec le programme Neurosportif. Je vais conclure sur ce. Merci beaucoup pour votre participation active. Vous avez toujours l'espace commentaire dans lequel vous pouvez me poser vos questions si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu durant ce live et auxquelles je pourrai répondre en commentaire. Donc n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle journée et également un très bon week-end. À bientôt!